France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Cuba, le dictateur et le révolutionnaire. Le 31 décembre 1959, le dictateur cubain Fulgencio Batista prend la fuite. 8 ans après sa prise de pouvoir, grâce à un coup d'état militaire, longtemps soutenu par les États-Unis, il abandonne son pays. Le lendemain, et dans toutes les villes de la grande île des Caraïbes, les Cubains célèbrent le M26, le groupe de révolutionnaires barbus qui a réussi à faire tomber cette dictature brutale, l'une de celles qui fleurissent en Amérique latine à l'époque et jusqu'aux années 80. Ici à Cuba, c'est évidemment Fidel Castro qui incarne le renversement de ce type de régime. Grâce à un travail de sape, face à la puissante armée de Batista et à un travail médiatique exceptionnel, le leader de la révolution cubaine a méticuleusement préparé le renversement de son ennemi. Une révolution qui va marquer l'histoire, mais qui en aucun cas n'apportera la démocratie. C'est un grand classique, une dictature en remplace une autre. Notre invité aujourd'hui, Rafael Pedemonte, maître de conférence à l'université de Poitiers. Il est un spécialiste de l'histoire cubaine. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Gaspard Valu, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Le peuple écoute. Il écoute les combattants révolutionnaires. Les soldats de l'armée régulière nous écoutent aussi. Et leur vie est entre nos mains.
Jeudi 8 janvier 1959, La Havane. Depuis la fuite du dictateur Batista, une semaine plus tôt, la capitale cubaine est en liesse. Un peu partout dans la ville, les drapeaux nationaux flottent dans le vent de l'hiver tropical, aux côtés de banderoles rouges et noires, emblème du mouvement du 26 juillet. Ce jour-là, ils sont des centaines de milliers à se presser dans les rues et les avenues de La Havane. Des corps serrés, des visages souriants s'affichent au balcon des immeubles défraîchis. La presse internationale est là. Tous les plus grands titres ont dépêché sur place leurs envoyés spéciaux, qui, carnet de notes et appareils photo en main, ne perdent pas une miette de l'ambiance. Longtemps cantonnés à la clandestinité dans la jungle reculée de la Sierra Maestra, les combattants à l'uniforme vert olive sont aujourd'hui les héros de tout un pays. Aux côtés de la population, ils attendent l'arrivée de celui qui a mené la révolution cubaine, Fidel Castro. Parti quelques jours plus tôt de Santiago, la grande ville de l'Est, son cortège, baptisé Caravane de la Liberté, a traversé le pays. Il entre aujourd'hui dans La Havane. Barbe épaisse et cigarette aux lèvres, Fidel Castro, 32 ans, apparaît enfin dans l'après-midi. Le chef rebelle et nouvel homme fort du pays serpente lentement les rues de la capitale. Il salue la foule, serre des mains, embrasse les enfants qu'on lui tend dans l'euphorie et les viva Fidel retentissent à chaque coin de rue.
La Havane est en fête. En même temps que le président Urrutia, porté par le mouvement libérateur à la présidence de la République cubaine, la population a acclamé l'homme à la barbe légendaire, Fidel Castro, irréductible ennemi du général Batista. L'épopée de l'avocat de 32 ans est donc arrivée à son terme. Objet des ovations folles de La Havane, Fidel Castro est aujourd'hui le maître de Cuba.
Ce 8 janvier 1959 marque le point d'orgue d'une lutte acharnée contre un dictateur en place depuis près de 10 ans. Une bascule, oui, une bascule sans précédent pour ce pays qui, depuis son indépendance, doit composer avec l'ingérence de son encombrant et puissant voisin américain.
Au sud du golfe du Mexique, au large des États-Unis, du Mexique et du Honduras, en pleine mer des Antilles, comme à la tête d'une escadre d'îles, fille du rhum, des danses et des chansons, Cuba semble faire route vers la Floride. Ancienne colonie espagnole, déchirée par la guerre, conquise à la fin du 19e siècle par les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui République de l'Amérique centrale, Cuba, capitale La Havane, est la plus grande des Antilles. Son sol est prodigue, sucre, tabac, bois précieux. habanera, guaracha, rumba.
Dernière colonie espagnole dans les Caraïbes, Cuba obtient officiellement son indépendance en 1902. Mais l'emprise américaine se substitue rapidement au joug colonial de Madrid. Car si, à Washington, on renonce finalement à l'annexion de cette grande île située à seulement à 150 km des côtes de Floride, on n'abandonne pas pour autant l'idée d'un contrôle renforcé. Contrôle économique d'abord, avec l'afflux de capitaux américains dans tous les domaines de l'économie locale, comme le sucre ou le tabac. Territorial également, avec d'importantes concessions, comme la base de Guantanamo, à l'est de l'île. Un contrôle politique, enfin, qui, au travers de l'amendement Platt, permet à l'Amérique de s'imposer en véritable maître de Cuba. Cet amendement interdit en effet au gouvernement cubain de signer un quelconque traité international sans l'aval de Washington. Il autorise aussi les États-Unis à intervenir militairement si ses intérêts sont menacés. Comme quoi, on est plus proche d'un protectorat néocolonial que d'une véritable indépendance. Résultat, une caste d'élite profite d'une corruption foisonnante, tandis que l'économie surfe sur le mirage d'une croissance portée par l'afflux massif de dollars américains. Mais l'instabilité politique et les dérives autoritaires de président Machado poussent la population à bout. En 1933, un groupe de sous-officiers renverse le pouvoir. Ce putsch, baptisé « Révolte des sergents », s'opère avec la bénédiction des responsables de Washington, très vite rassurés par les gages de bonne volonté apportés par le leader du mouvement, un certain Fulgencio Batista. Le jour même, le nouvel homme fort du pays s'adresse pour la première fois à la population.
Je tiens à remercier la marine, la police, mais aussi la population qui nous ont si noblement soutenus dans notre cause, qui est aussi celle du peuple. La liberté et la justice.
Dans l'ombre, le jeune militaire s'impose vite comme le véritable chef du pays. Promu colonel, puis général, il est celui qui décide du sort des locataires du palais présidentiel et de la conduite du pays. Quelques mois plus tard, c'est lui qui obtient à Washington la suppression de l'amendement Platt. Une concession qui n'empêche pas l'Amérique, cela dit, de garder la main sur l'économie et la politique cubaine. Une nouvelle constitution est adoptée en 1940. Dans la foulée, Batista sort de l'ombre et se présente à l'élection présidentielle. Un scrutin qu'il remporte haut la main. Habile politique, le nouveau président prend soin de préserver ses relations privilégiées avec l'Amérique, se montre particulièrement conciliant dans le contexte de guerre mondiale. Il s'assure aussi un soutien populaire grâce à plusieurs réformes sociales d'envergure et à une importante dynamique économique. Mais il ne s'éternise pas à la tête du pays. Non, il quitte le pouvoir en 1944 au terme de son mandat. Après avoir pris soin de vider les caisses de l'État, il s'installe en Floride où il mène grand train. L'alternance politique se met alors en place. Le nouveau président, Ramón Grau San Martín, multiplie les réformes sociales. Augmentation des salaires, développement des infrastructures publiques, accès aux soins et à l'éducation, sa politique bénéficie du soutien de la population. Mais ces mesures peinent à cacher la réalité d'une vie politique gangrénée par la corruption et le clientélisme. Un climat entretenu notamment par la mafia américaine, qui pense avoir trouvé son nouvel Eldorado, comme le raconte Eric Desenal, consultant américain dans le documentaire « Cuba, l'histoire secrète ».
Il y avait déjà de nombreux secteurs économiques américains qui connaissaient le succès à Cuba. L'industrie du sucre, l'industrie du téléphone. La mafia s'est concentrée sur le voyage, le tourisme et le jeu. Cuba était une île très attractive pour la mafia, car tout y était légal. Aux États-Unis, ils ne pouvaient pas faire grand-chose dans la légalité. L'argent était suivi, tracé. Mais à La Havane, la mafia pouvait construire des casinos et des hôtels en toute légalité. L'argent utilisé à cet effet n'avait pas été obtenu légalement aux États-Unis. Alors ils arrivaient à La Havane avec des sacs de marins remplis de cash et achetaient des hôtels et des casinos.
13 ans à Cuba depuis la Prohibition, le crime organisé, ses principales figures comme Lucky Luciano, ponte de Cosa Nostra, ou Meyerhansky, chef de file de la mafia juive, bénéficie depuis l'époque Batista d'un pouvoir cubain pour le moins complaisant. Drogue, casino, prostitution, l'île devient un paradis pour gangsters. Les paras américains profitent librement des hôtels de luxe et des cabarets de la Havane. Ils ont les mains libres et les poches pleines. Mais la situation se détériore pour les Cubains. La pauvreté et le chômage explosent. Malgré les promesses, Carlos Socarrás, élu en 1948, ne parvient pas à renverser la tendance. Le crime organisé prospère et les manifestations de colère populaire sont de plus en plus nombreuses. En réaction, le nouveau président multiplie les arrestations d'opposants politiques et tente de contenir la population, surtout les mouvements étudiants. Parmi ces figures de l'université de La Havane figure un certain Fidel Castro. Né en 1926 à Biran, dans l'Oriente, la grande province de l'Est, cet étudiant en droit est le fils illégitime d'un riche bourgeois local. Passé par un prestigieux lycée jésuite de La Havane, le jeune homme est idéaliste et surtout déterminé. Il fait partie de cette jeunesse d'Amérique latine qui aspire à insuffler un vent de liberté. En 1947, il prend part avec quelques compagnons à une tentative d'invasion de la République dominicaine, pour participer au renversement du dictateur Rafael Trujillo. Mais les jeunes Cubains sont arrêtés avant de débarquer. Un an plus tard, Castro et trois autres étudiants sont en Colombie quand le pouvoir en place réprime dans le sang une violente révolte populaire. Aux côtés des manifestants de Bogota, Fidel et ses compagnons prennent part à la bataille, comme le raconte Jean-Pierre Clerc dans une biographie consacrée au leader de la révolution cubaine.
Un cortège de gens armés de fusils, de bâtons, de barres de fer passe sous les fenêtres de notre hôtel de Bogota. Quand je vois cette foule, je ne sais pas où ils vont. On dit vers un commissariat de police. Eh bien, je les rejoins et je me dirige vers le commissariat de police. Je crois qu'il y a une révolution en cours et je décide de m'y joindre.
Cette révolte se solde par un échec, certes. Mais pour le jeune Cubain, elle marque un tournant. Son épopée colombienne fait l'objet de nombreux articles. Et à son retour à Cuba, Fidel Castro s'impose comme une figure respectée du mouvement étudiant. Désormais marié à la fille d'un proche de l'ancien président Batista, Fidel Castro intègre la haute société cubaine. Mais il ne renonce pas à ses idées et il exerce comme avocat au profit des plus démunis. Fédérateur, éloquent, il s'engage aussi en politique au sein du parti orthodoxe qui affirme vouloir nettoyer le pays de la corruption. À l'approche de l'élection présidentielle de 1952, sa formation est la principale force d'opposition dans le pays. Et voilà que Batista est de retour de son exil doré en Floride et qu'il se présente à la présidentielle. Porté par ses alliés au sein de l'armée et par la bourgeoisie cubaine, il espère reconquérir le pouvoir. Il peut aussi compter sur les dollars d'une mafia qui veut à tout prix éviter une victoire du parti orthodoxe. Malgré tout, le défi s'annonce compliqué. L'ancien président espérait susciter l'enthousiasme, c'est loin d'être le cas. Les sondages le placent loin derrière les favoris. Alors, Batista prend les devants et avec l'aide de militaires fidèles, il organise un coup d'État. Le 10 mars 1952, trois mois avant le vote, il s'empare du pouvoir sans presque aucun coup de feu. La population, excédée par la corruption, laisse faire.
À La Havane, capitale de Cuba, le général Batista, appuyé sur l'armée, vient de prendre le pouvoir par un coup d'État éclair. En moins d'une heure et sans verser une goutte de sang, il avait en effet en main les principaux postes de commande du gouvernement, tandis que le président Prio se réfugiait à l'ambassade du Mexique. Déjà maître du pays de 1933 à 1944, le général Batista motive sa révolution par la nécessité de mettre un terme au gangstérisme politique et de faire régner l'ordre dans l'île.
Appuyé par les États-Unis, qui reconnaissent presque immédiatement le nouveau pouvoir en place, Batista suspend la constitution de 1940 qu'il a lui-même rédigée. Les effectifs policiers augmentent, tout comme les budgets qui lui sont alloués. Dans les mois qui suivent, les forces de l'ordre répriment avec violence les manifestations étudiantes et n'hésitent pas à ouvrir le feu. Et quand il faut faire des exemples, il jette en pleine rue les cadavres des opposants assassinés. Fidel Castro, qui a refusé quelques mois plus tôt de rejoindre l'équipe de l'ancien président, mène lui une révolte sur le plan judiciaire. Il porte plainte en effet contre le nouveau dirigeant pour atteinte à la Constitution. En vain, le pays bascule dans la dictature. Après avoir épuisé tous les recours juridiques, Castro abandonne alors la robe d'avocat pour le treillis militaire.
El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26.
Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.
La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26.
Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.
Solo el trabajo creador es la vía de crecer y en la cuestión del trabajo para nosotros siempre es 26.
Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.
La ideología es motor para avanzar y vencer. Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26.
Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.
La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer. Y desde aquel mismo instante, para nosotros siempre 26.
Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui la révolution cubaine.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Dimanche 13 juillet 1953, séjour de carnaval dans les rues de Santiago. La population est sortie en nombre pour assister au défilé et participer aux festivités de la soirée. C'est alors que dans la nuit, masqué par le bruit ambiant, un groupe d'une petite centaine de jeunes hommes armés se dirige discrètement vers la caserne d'hommes, la Moncada, en plein centre-ville. Véritable forteresse, elle abrite la deuxième plus grande garnison de Cuba. Dirigé par Fidel Castro, le groupe espère s'emparer de cette place forte de l'armée du général Batista. Et l'objectif est clair, renverser celui qui s'est emparé du pouvoir un an plus tôt. Et cela fait des mois que les rebelles préparent leur plan. Mais rien ne se passe comme prévu, comme le raconte un compagnon d'armes de Fidel Castro dans le documentaire « Cuba, l'histoire secrète ».
Malheureusement, il y a eu un incident imprévu. Quand la première de nos voitures est arrivée, elle a été surprise par une patrouille. Ce à quoi on ne s'attendait pas. Et ils ont donné l'alarme. On n'a pas arrêté de tirer. L'effet de surprise était raté. Alors, on a tiré jusqu'à ce qu'on n'ait plus de munitions.
Sept rebelles perdent la vie au moment de l'assaut et 55 autres sont froidement exécutés après une traque intense. Fidel et son jeune frère, Raoul, ainsi que quelques autres, sont arrêtés. Peut-être épargné grâce à son beau-père, ministre de l'Intérieur de Batista, le chef du groupe rebelle est emprisonné et jugé quelques semaines plus tard. Le Le 16 octobre 1953, Fidel Castro, qui assure lui-même sa défense, on rappelle qu'il est avocat, prononce un plaidoyer devenu célèbre. Après une longue tirade, il conclut par cette phrase « Condamnez-moi, c'est sans importance, l'histoire m'acquittera ». En attendant ses 15 ans de prison. Raoul Castro et les autres membres du commando, eux, sont condamnés à des peines de 10 à 13 ans. Si l'opération est un échec total, elle permet tout de même à Fidel de devenir une figure de l'opposition au régime de Batista. Une popularité que le jeune homme mesure 18 mois plus tard, en mai 55, quand lui et ses compagnons sont libérés grâce à une loi d'amnistie décidée par un Batista qui tente de garder la main sur la population. Loin d'être rentré dans le rang, Fidel Castro fait savoir quelques jours plus tard son intention de s'exiler au Mexique pour préparer la libération de Cuba. Il annonce également la création de son mouvement révolutionnaire, le M26, ou mouvement du 26 juillet, en hommage à l'attaque de la caserne de la Moncada. Ainsi, Fidel, Raoul et une dizaine de leurs compagnons débarquent au Mexique au mois de juillet 1955. Dans ce pays qui a connu une révolution victorieuse 40 ans plus tôt, les exilés cubains font la connaissance de nombreux idéalistes latino-américains. Un vent de révolte souffle sur son continent. Parmi ces figures qui écument les cercles révolutionnaires de Mexico, un jeune et charismatique médecin argentin, Ernesto Guevara, qu'on surnomme le Che, et qui est un marxiste convaincu. Très vite, il fait la rencontre de Fidel, rencontre qu'il racontera plus tard dans ses mémoires.
Je rencontrai Fidel dans une de ces soirées interminables de discussions politiques à Mexico. Cette nuit-là, il m'exposa ses idées sur la guerre à Cuba avec une telle clarté, une telle conviction qu'à l'aube, j'étais le médecin de l'expédition. Ce qui me séduisit le plus chez Fidel, c'était sa confiance absolue dans la victoire. Ce n'était pas seulement un homme, c'était un mouvement, une cause, une volonté inébranlable. Je n'ai pas hésité une seconde. Je savais que ce n'était pas seulement une aventure. Ce que nous préparions, c'était une révolution.
Mais à Mexico, les révolutionnaires cubains se font vite remarquer. Brièvement arrêtés par les autorités, Fidel, Raoul et le Che savent que leur temps est compté. Le groupe, désormais étoffé, s'entraîne alors d'arrache-pied au maniement des armes et aux techniques de guérilla dans la campagne mexicaine. Fidel, lui, se rend aux États-Unis pour collecter des fonds auprès d'exilés cubains, désireux de voir tomber le régime dictatorial en place à La Havane. En 1956, le groupe achète le Granma, un vieux navire long de 18 mètres qui doit permettre de transporter des guérilleros sur le sol cubain. Le 25 novembre, ils sont 82 à embarquer pour une traversée qui s'annonce périlleuse. Surchargé d'armes, de vivres et d'hommes, le Granma essuie une violente tempête. Alors que le voyage devait durer 2 jours, il faut une semaine pour atteindre Cuba. Fidel Castro et ses hommes débarquent sur une plage isolée de la province de l'Oriente dans la nuit du 2 décembre. Mais alors qu'ils pensaient trouver des renforts sur place, ils sont surpris au petit matin par un important contingent de soldats de l'armée du général Batista.
Al refugio, llévalos al refugio. No corran, no corran.
L'aviation les bombarde sans retenue. Les militaires du pouvoir sont équipés d'armes automatiques. Les révolutionnaires cubains ne font pas le poids. Des dizaines d'entre eux sont abattus. Au terme d'une bataille de plusieurs heures, seule une poignée d'entre eux parvient à prendre la fuite et trouver refuge dans la jungle épaisse de la Sierra Maestra, un massif montagneux impénétrable au sud-est de Cuba. Annoncé mort par les médias, Fidel Castro, son frère Raoul, ainsi que Che Guevara et le vétéran Camilo Cienfuegos font partie de la dizaine de survivants parmi les débarqués du Granma. Terrés dans la jungle, ils se déplacent en permanence pour éviter les patrouilles de l'armée. Fidel Castro sait que son groupe d'une dizaine d'hommes ne peut rien contre les 35 000 soldats de l'armée régulière. Alors, pour tenter de redonner un souffle à son entreprise, il joue la carte des médias. Au début du mois de février 57, il invite le journaliste du New York Times, Herbert Matthews, à le rencontrer dans la Sierra Maestra. Et le 27 février, un premier article paraît à la une.
Fidel Castro, le chef rebelle de la jeunesse cubaine, est bien vivant et se bat avec acharnement et succès dans la rugueuse et escarpée Sierra Maestra, à l'extrémité sud de l'île. Pour la première fois, l'information que Fidel Castro est en vie et à Cuba est confirmée. Personne du monde extérieur, et encore moins de la presse, n'a vu le seigneur Castro, à l'exception de l'auteur de ces lignes. Le président Fulgencio Batista a déployé l'élite de son armée, mais les soldats mènent une bataille perdue d'avance pour détruire l'ennemi le plus dangereux que le dirigeant et dictateur cubain ait jamais affronté. Ce récit et les suivants briseront la censure la plus stricte de l'histoire de Cuba.
L'article du New York Times fait le tour du monde. Dépeint comme un Robin des Bois voulant rétablir la démocratie à Cuba, Fidel Castro réussit un tour de force médiatique. Alors qu'ils ne sont qu'une dizaine à tenter de survivre dans la jungle, ils apparaissent désormais aux yeux du monde comme des libérateurs crédibles de Cuba. Habile diplomate, Castro tente aussi de rassurer les Américains sur ses intentions. Il sait que Washington redoute l'émergence d'un régime communiste à 200 km des côtes de Floride. Alors il l'assure, sa révolution n'est pas téléguidée par Moscou. À défaut d'un soutien franc, il espère ne pas voir débarquer les soldats américains en soutien de l'armée de Batista. Malgré la censure, l'article a aussi une résonance sur le plan national. L'épopée de Fidel et de ses hommes parvient aux oreilles de nombreux opposants au régime. En ville, la branche urbaine du M26 multiplie les actes de sabotage et les actions violentes. Puis ce sont les mouvements étudiants, syndicaux et politiques qui s'organisent et rejoignent la résistance. Alors qu'ils ne sont même pas sans guerriers terrés dans la jungle, les hommes de Castro parviennent en quelques mois à déstabiliser un Batista qui sent la pression monter. Alors, il annonce des élections l'année suivante et assure qu'il ne se représentera pas. Mais la censure est renforcée et l'armée recrute à tour de bras quand la police multiplie, elle, les arrestations arbitraires et les exécutions sommaires. À force d'embuscades et d'escarmouches avec l'armée, Fidel et ses hommes engrangent les ralliements et les prises de matériel. Au début de l'année 58, ils sont désormais plusieurs centaines à avoir rejoint le maquis de la Sierra Maestra. Le 24 février, le M6 profite d'une grande course automobile organisée à La Havane pour attirer une nouvelle fois l'attention médiatique. La veille du départ, le champion du monde argentin, le célèbre Fangio, est enlevé devant son hôtel de La Havane.
Juan Manuel Fangio, champion du monde automobile, a été enlevé cette nuit par des rebelles cubains. Il était dans le hall de son hôtel à La Havane. Peu de temps après, une voiture noire s'est arrêtée devant l'hôtel. En est descendu deux hommes vêtus de vestes de cuir qui portaient tous les deux un colt, d'ailleurs colt à la main, qui sont arrivés. On demandait si Fangio était là, on leur a fait signe que oui. Ces deux hommes ont donc emmené Fangio et depuis, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Au cours de ces derniers jours, les rebelles cubains avaient proféré de nombreuses menaces de sabotage, notamment contre le Grand Prix automobile de Cuba qui doit se courir aujourd'hui et auquel devait participer Fangio. Quelques minutes après l'enlèvement, des coups de téléphone mystérieux furent adressés aux journaux et aux agences de presse pour leur confirmer cette incroyable histoire. Une voix anonyme déclarait à chaque fois « Ici, les 26 de juillet, nous avons kidnappé Juan Manuel Fangio à 8h55, heure locale. » Ces coups de téléphone émanaient de la bande rebelle commandée par Fidel Castro.
Libéré dès le lendemain, le célèbre pilote assure avoir été très bien traité et affiche même sa sympathie pour le mouvement révolutionnaire cubain. Quelle victoire pour Fidel Castro, qui lance au même moment une radio pirate. Baptisée Radio Rebelde et gérée par le Che, elle devient le canal de diffusion officiel du groupe. Très vite, le M26 envoie les effets, car les ralliements sont de plus en plus nombreux. Sur le plan international également, les efforts médiatiques commencent à porter leurs fruits. Apprécié du public, Fidel Castro n'apparaît plus comme un rebelle isolé et parvient même à lever des fonds et récolter de l'armement. Batista, lui, est de plus en plus critiqué. En mars 58, le Congrès américain suspend son soutien au dictateur et vote l'interdiction de vente d'armes au régime cubain. Acculé, Batista déploie 20 000 soldats dans la Sierra Maestra durant l'été 58. Mais son offensive, baptisée Opération Verano, se solde par un échec cuisant. À la fin de l'automne, Fidel Castro décide de passer à l'action. Sa petite armée compte désormais 3 000 hommes. Face aux 35 000 soldats cubains, c'est peu, mais il est convaincu qu'il peut gagner la guerre. En novembre, le M26 se divise en deux groupes. Le premier, dirigé par Fidel et Raúl Castro, marche en direction de Santiago de Cuba. L'autre, commandé par le Che et Camilo Cienfuegos, prend la route de l'Ouest. Si les premiers connaissent des difficultés aux abords de Santiago, les seconds avancent rapidement. En décembre, ils atteignent Santa Clara, au centre du pays. Là, ils parviennent à faire dérailler un train qui transporte des soldats et des milliers d'armes qui font route vers le front de l'Est. Une prise de guerre décisive. À la fin du mois de décembre, l'armée est en déroute. Les soldats, peu entraînés et de moins en moins équipés, ne font pas le poids face aux révolutionnaires qui, eux, sont galvanisés. Et les défections sont nombreuses. Fidel et Raúl Castro sont maintenant aux portes de Santiago. Et sur le front de l'Ouest, les commandants Guevara et Cienfuegos sont prêts à marcher sur la Havane. Le 31 décembre 1958, les dés sont jetés. Batista prend la fuite.
Alors qu'un mouvement révolutionnaire attire l'attention mondiale à Cuba, l'ancien dictateur de l'île se réfugie en République dominicaine. Voici les premières images de Fulgencio Batista, l'ancien maître de Cuba, profite de cette retraite en compagnie de Ruben, l'aîné de ses enfants. Pendant que Fidel Castro fait les gros titres à Cuba, Batista est désormais dans l'ombre, non loin de là.
Comme tout bon dictateur qui se respecte, Batista fuit avec ses proches et n'oublie pas de vider les caisses. Avec 300 millions de dollars en liquide dans ses valises, il abandonne son pays. Le 1er janvier 1959, Castro et ses fidèles entrent dans Santiago et obtient sans combattre la reddition des forces armées désemparées par la fuite de Batista. Le chef rebelle déclare la ville capitale provisoire de Cuba et nomme Manuel Urrutia, une figure de l'opposition, président par intérim. Le lendemain, Cienfuegos et Guevara entrent dans la Havane. Là encore, presque aucun coup de feu n'est tiré. Les guerrilleros barbus prennent le contrôle de la capitale cubaine. Le 8 janvier, après avoir traversé le pays dans sa caravane de la liberté, Fidel Castro entre à son tour dans la Havane. Sous les yeux des reporters du monde entier, le leader de la révolution traverse une ville en liesse.
Oiga, comandante, ¿cree que puedo volver a mi casa para ver a la familia? Pero si ya ganamos la revolución,
apenas ganamos la guerra, la revolución comienza ahora.
S'il a réussi son pari et renversé Batista, Fidel Castro assure que ce n'est que le début de la révolution. Déterminé à changer profondément le pays, il sait que tout reste à faire. Et bien sûr, la tâche s'annonce compliquée. D'un point de vue intérieur d'abord, des points de friction émergent rapidement. Manuel Urrutia, le président par intérim, démissionne à l'été 59, quand Fidel Castro refuse de démanteler les tribunaux révolutionnaires et de mettre fin aux exécutions nombreuses d'anciens cadres du régime de Batista. Puis la censure, la surveillance de la population ou l'interdiction de toute opposition politique font fuir de nombreuses figures de l'opposition à l'ancien régime, échaudé par ce Cuba version Castro qui retrouve des airs de dictature. Sur la scène internationale également, la donne évolue rapidement. Si le nouveau régime bénéficie dès le 7 janvier d'une reconnaissance officielle de la part de Washington, puis d'autres grandes nations, il ne va pas tarder à se brouiller avec son puissant voisin. Ces ambitieuses réformes dans tous les domaines de la société et de l'économie cubaine doivent permettre d'affranchir l'île de l'encombrante tutelle américaine. La mafia est chassée du pays, la réforme agraire et les nationalisations d'entreprises, dont beaucoup sont aux mains de propriétaires américains, font mettre le feu aux poudres avec les États-Unis, jusqu'à une rupture des relations diplomatiques au début de l'année 1961. Un changement de paradigme qui bénéficie à Moscou. Car s'il avait pris soin de rester à distance des soviétiques et de tenir les communistes à l'écart de sa révolution, Fidel Castro n'a plus d'autre choix que de basculer à l'Est. Un revirement qui conduira quelques mois plus tard à la crise des missiles de Cuba, plaçant l'île caribéenne au cœur de la guerre froide. Véritable caillou dans la chaussure des États-Unis.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la révolution cubaine. Notre invité, Raphaël Pedemonte, bonjour.
Bonjour, et merci de votre invitation.
Je vous en prie. Que devient Batista après sa fuite de Cuba?
C'est une histoire intéressante. Comme vous l'avez dit un peu dans le documentaire, les États-Unis, à la fin du gouvernement de Batista, ont un peu lâché Batista. Ils ont décidé de décréter un embargo d'armes contre Cuba. Donc même les États-Unis ne voulaient pas de Batista à partir de 1958 et même 1959. Ce qui le force finalement à s'exiler, entre guillemets, en République dominicaine, chez le dictateur impitoyable depuis 1930, Rafael Leónidas Trujillo, avec qui d'ailleurs Batista ne s'entendait pas très bien. Une fois qu'il s'installe en République dominicaine, commence pour Batista sa quête désespérée pour pouvoir trouver l'asile politique en Europe. J'ai pu consulter les archives diplomatiques françaises et belges et j'ai constaté que effectivement Batista a introduit des demandes d'asile politique dans les deux pays, toutes deux refusées parce que sa présence pouvait ternir finalement l'image de ces pays-là.
Et c'était
il obtient finalement l'asile au Portugal de Salazar à la mi-1959 et ensuite en 1960 63, il s'installe dans l'Espagne de Franco. Franco, que Batista avait d'ailleurs critiqué auparavant dans les années 30. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement, Batista a été quelqu'un il est resté relativement actif pendant ces années post-révolutionnaires. D'abord, il est resté actif intellectuellement. Il a beaucoup écrit. Il a écrit 5 livres pour justifier son passé et présenter sa version des choses. Et ensuite, il a entretenu une énorme correspondance avec des opposants anticastristes et surtout les opposants anticastristes que lui soutenait. C'est-à-dire, parce que l'opposition à Castro s'est divisée en deux. L'opposition batistienne, qui considérait que le président légitime de Cuba, c'était Batista. Et l'opposition de la génération de la révolution trahie, c'est-à-dire ceux qui estimaient que Castro avait trahi la révolution et ceux dont sont devenus par la suite opposants à ce régime. Et donc Batista, comme il avait effectivement il avait accumulé une énorme somme d'argent, soutenait le courant batistien de l'opposition anticastriste.
Alors dites-moi, cette révolution cubaine, elle a une dimension mythique, elle dépasse finalement la révolution dans un pays. C'est une sorte de matrice révolutionnaire. Est-ce qu'elle est en droite ligne des révolutions bovaristes d'Amérique latine ?
Oui, donc effectivement, la révolution cubaine, il faut la comprendre dans son contexte régional. Il faut dire que en Amérique latine dans les années 50 était en train de traverser un processus de démocratisation régionale. Vous l'avez dit, Fidel Castro d'ailleurs se considérait comme un démocrate dans un premier temps, il avait même participé à une expédition militaire contre Trujillo. Ce n'était pas le seul, il y avait aussi par exemple Echeverría, on parle jamais d'Echeverría, c'était le secrétaire général, le directoire révolutionnaire étudiantin qui était un mouvement aussi très actif et lui s'était engagé auprès de Figueres, un démocrate du Costa Rica dont le pays a été envahi ou une tentative d'invasion en 1953 par Somoza, un dictateur caribéen. Donc, pour comprendre la révolution cubaine, il faut la comprendre dans son cadre régional de lutte entre mouvements entre dictatures et mouvements pro-démocratie et des alliances continentales qui se sont donc formées dans son contexte. Et d'ailleurs, il est intéressant d'étudier ceci sous cet angle-là, parce que l'Amérique latine, comme je l'ai dit, traversait un processus de démocratisation. Par exemple, au Pérou, il y avait eu en 1956 une espèce d'insurrection qui a abouti à la chute de la dictature d'Odría. Au Venezuela, en 1958, chute du dictateur Pérez Jiménez. En Colombie, chute du dictateur Rojas Pinilla. Et donc, finalement, la chute de Batista semblait aller dans le sens logique de l'histoire, dans le sens de la démocratisation. Et donc, c'est ce cadre-là qui explique le mieux la révolution cubaine, plus que la guerre froide.
Mais je disais bovariste, mais c'est bolivariste. Hein, Bolivar, évidemment, dans le sillage de Bolivar.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Raphaël Pelemonte, je rappelle que vous êtes historien spécialiste de Cuba et de l'Amérique latine et que vous intervenez dans les studios d'ici Poitou, notre radio à Poitiers. Alors on connaît la tournure que la révolution cubaine a prise dans les années qui ont suivi l'entrée de Cuba dans le camp soviétique. On a longtemps dit que cette révolution avait été téléguidée par Moscou. Pourtant, et apparemment il n'en est rien, vous confirmez ?
Je confirme. En fait, la révolution effectivement, n'a pas été téléguidé par Moscou. Ça, c'est sûr et certain. Moscou, d'ailleurs, n'était pas particulièrement intéressé à l'Amérique latine. Ça s'était révélé après le coup d'État militaire soutenu par les États-Unis en 54 au Guatemala, où finalement, le Kremlin n'a pas particulièrement réagi. Alors, vous pointez là du doigt une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui produit énormément de débats depuis près de 65 ans. Est-ce que Fidel Castro était communiste avant la Révolution ? Oui ou non ? Moi, je pense que non. Mais il y a quand même des éléments qui pourraient nous faire penser l'inverse. Par exemple, Castro, lui-même, dans les années ultérieures, des années 70-80, il a commencé à dire, dans un contexte de rapprochement avec l'Union soviétique, qu'en réalité, il avait été marxiste depuis la nuit des temps. Deuxièmement, le frère de Fidel Castro, même si Castro ne l'était pas, lui, le frère de Fidel Castro, Raúl Castro, lui était effectivement communiste. Il avait milité dans les jeunesses du Parti Socialiste Populaire, qui est le nom qu'a pris le Parti Communiste à Cuba, et il s'est même rendu avant la Moncada, en février 1953, dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie et en Roumanie, pays qu'il a ensuite qualifié de paradis. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement de Fidel Castro n'était pas communiste. Les Cubains luttaient essentiellement pour le rétablissement de la constitution progressiste de 1940 et pas pour l'installation d'un système socialiste. Il y en avait peut-être quelques-uns, mais ils n'étaient pas majoritaires. Alors, qu'est-ce qui a produit ensuite la radicalisation de la révolution cubaine à partir de 1960-1961 ? Plusieurs facteurs. La politique internationale. Le fait que les États-Unis ont adopté rapidement une politique hostile vis-à-vis de la révolution cubaine, ce qui a forcé finalement le régime de Fidel Castro de se rapprocher de l'Union soviétique. Aussi le fait que l'Union soviétique, pour la première fois de son histoire, était prête à s'engager, et Nikita Khrouchtchev en particulier, dans un pays latino-américain. Ça n'avait jamais eu lieu auparavant, et donc c'est la première fois que les gens se disent « bon, prenons le risque, soutenant une révolution en Amérique latine ».
Mais surtout qu'elle est proche des États-Unis, en fait, c'est ça que Moscou voyait. C'était un vrai caillou dans la chaussure, géographiquement et politiquement.
Il faut aussi prendre en compte des facteurs internes. Il faut dire que à Cuba, le Parti Socialiste Populaire, donc le Parti Communiste qui avait eu une participation modeste, commence à faire pression sur les autorités pour adopter une voie plus radicale, grâce notamment à l'aide de Raúl Castro et de Che Guevara, qui étaient marxistes. Et donc ils arrivent à s'infiltrer dans les rangs du pouvoir et donc à pousser cette révolution vers une option plus radicale et donc socialiste.
Mmh. Alors, est-ce qu'il y a eu des espoirs de la population d'avoir une démocratie avec à l'issue de cette révolution cubaine, parce que je rappelle quand même que le credo des révolutionnaires cubains, c'était contre une dictature, celle de Batista en l'occurrence, une dictature corrompue.
Exactement, donc c'était une dictature corrompue, ce qui explique en partie l'aliénation politique que Batista a produit. Effectivement, l'espoir démocratique a duré pendant un certain nombre d'années. En 1959, l'enthousiasme était très très grand, malgré quelques premières ruptures, malgré des autorités cubaines comme Urrutia qui démissionne, comme vous l'avez dit, à la mi-1959, qui voyait apparaître à l'horizon un horizon communiste. Mais l'espoir a duré longtemps. La véritable radicalisation de la révolution cubaine est en 1961, quand Castro proclame le caractère socialiste de la révolution cubaine en avril et en décembre, proclame le caractère marxiste-léniniste de la révolution. Et à partir de ce moment-là, les choses sont claires, l'espoir démocratique, la démocratie libérale à Cuba, visiblement, ne va pas s'installer.
À votre avis, pourquoi Fidel Castro a réussi sa révolution, là où d'autres n'ont pas réussi ? Quelles ont été ses qualités politiques majeures ?
D'abord, évidemment, vous l'avez mentionné, l'aspect médiatique, mais je ne dirais pas tout à fait que Castro a réussi la révolution là où d'autres n'ont pas réussi. Comme je vous y disais tout à l'heure, il y avait eu une forme de révolution au Pérou, en Colombie.
Oui, bien sûr.
Au Venezuela. Et donc, la différence entre Cuba et les autres pays de l'Amérique latine, ce n'est pas tellement le fait de réussir ou pas la révolution dans sa phase insurrectionnelle, c'est le chemin radical que cette révolution opère après 1959. Mmh. Et c'est ça l'exceptionnalité de Cuba. C'est le fait que les autres révolutions, vous savez, et les Français, vous le savez mieux que moi, toutes les révolutions se divisent après la prise du pouvoir entre modérés et radicaux. Dans les autres pays latino-américains, il y avait eu un processus de démocratisation issu d'un processus révolutionnaire, mais ce sont les modérés réformistes qui se sont installés finalement dans ces pays-là. Alors qu'à Cuba, c'est les radicaux. Et c'est pour ça qu'on connaît mieux l'exemple cubain que l'exemple d'autres processus révolutionnaires aussi très présents en Amérique latine, notamment l'énorme révolution bolivienne en 1952 qui est très très peu étudiée à côté de celle de Cuba. C'est par l'insertion de Cuba dans cette logique de guerre froide, l'alliance avec l'Union soviétique, la rupture avec les États-Unis qu'on peut mieux comprendre l'exceptionnalité cubaine. Mais l'exceptionnalité cubaine est post-révolutionnaire plutôt que pré-révolutionnaire. Dans la phase pré-révolutionnaire, finalement, la logique démocratisante à Cuba ressemble beaucoup à celle d'autres pays latino-américains qui ont connu aussi des révolutions.
Et pourquoi le Che Guevara était-il une figure du romantisme révolutionnaire plus que Castro?
D'abord, évidemment, la mort prématurée est toujours à auréoler les martyrs de la révolution. Le Che, en plus, est devenu le premier théoricien de la révolution cubaine, en quelque sorte. C'est à partir de 1960 qu'il écrit son célèbre « La guerre de guérilla », donc avant que la révolution cubaine ne devienne officiellement socialiste, et il présente une vision de la révolution en disant que, pour faire la révolution en Amérique latine, il est essentiel de former des mouvements de guérilla dans les campagnes. Et donc, il y aura toute une tendance en Amérique latine à cette époque à former des mouvements de guérilla. Il y en aura en Colombie, au Venezuela, au Nicaragua. La révolution sandiniste a ses origines à ce moment-là. Donc, il devient une figure latino-américaine et ensuite internationale parce qu'il développe aussi une vision de la révolution qui doit s'appliquer à toute l'Amérique latine. Finalement, il a eu tort parce que il faut pas oublier que Guevara s'installe à Cuba en 1957. Mais la révolution cubaine, elle date de 1952. Les premiers mouvements révolutionnaires cubains datent de 1952. Ensuite, Guevara ne connaît que la partie rurale de la révolution cubaine. Après le débarquement du Granma, il s'installe directement dans les campagnes. Il ignore ce qui se passe dans les villes. Et donc, ensuite, il a théorisé la révolution cubaine sur la base de le FOCO, c'est-à-dire le mouvement de guérilla, en pensant que la formule magique pour faire la révolution, c'était la guérilla. Mais en réalité, il a ignoré, il n'a pas pris en considération le mouvement urbain qui était absolument essentiel. Il a voulu faire ça une théorie. Et d'ailleurs, il est mort, en quelque sorte, victime de sa propre théorie, puisqu'en 1967, il se rend en Bolivie et son mouvement de guérilla échouera, débouchant sur sa mort.
Alors, passons à Cuba aujourd'hui, pays dirigé depuis le 10 octobre 2019 par le président Miguel Díaz Canel Bermúdez, un militant communiste, et selon Amnesty International, 8600 personnes ont été arrêtées pour des motifs politiques en 2015, et en 2019, Amnesty International, toujours, considère que le régime maintient un dispositif répressif, et le diplomate Jean Mendelssohn estime, lui, que Cuba ne correspond à aucune case, finalement. Ni démocratie représentative, ni dictature. Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, il y a des prisonniers politiques à Cuba. Il y a eu une grande manifestation en 2021 qui a débouché sur l'emprisonnement de plusieurs manifestants qui se manifestaient de façon relativement pacifique. Donc je pense que c'est difficile de parler aujourd'hui à Cuba d'une démocratie.
Et est-ce qu'on peut parler d'une dictature, pour le coup ?
Moi, je parlerai effectivement d'une dictature.
Bien. Dernière question, il nous reste une minute. Les relations, pour parler des relations entre les États-Unis et Cuba, alors elles s'étaient réchauffées avec Obama. Elle se tente de nouveau avec Donald Trump, c'est clair?
Oui, c'est clair. L'une des dernières mesures au niveau international de Biden, c'était de sortir Cuba de la liste des pays qualifiés comme terroristes. La première chose que Rubio, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a fait, c'est réinstaller Cuba dans cette catégorie, ce qui a évidemment des implications économiques et qui accentue effectivement les difficultés quotidiennes de la population cubaine, malheureusement.
Et il y a aussi des conséquences sur l'immigration cubaine à Miami et dans toute la Floride ?
Oui, on estime à près de 2 millions d'habitants, plus ou moins les Cubains qui migrent vers d'autres pays, pas seulement aux États-Unis. Maintenant, c'est de plus en plus difficile au cours des 3-4 dernières années, avec comme conséquence le vieillissement de cette population et de plus en plus de jeunes qui partent.
Bien, merci infiniment Raphaël Abademonte. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Poitiers et spécialiste de l'histoire cubaine, ce dont on s'est aperçu d'ailleurs. Merci, au revoir.
Merci, merci beaucoup.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Révolution cubaine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent Dittre.